Chapitre 2. Depuis que Gerebaldi s'était fait connaître à Valerio, il était devenu, avec le poète suisse, un des commensaux de la tante italienne. Mais ils eurent bientôt un nouvel associé. Celui-là se nommait Seyd Abdurrahman et c'était un érudit. Il raconta un matin son histoire en ces termes. Je suis né à Ardébil, ville célèbre, peu éloignée de la mer de Khozer, que vous autres Européens vous appelez la mer Caspienne. Comme ma famille ne comptait que des moulas, le moula mon père, les trois moulas mes oncles et les huit moulas mes cousins, je ne pouvais manquer de devenir un personnage très savant, et c'est ce qui advint. Je fus battu si souvent et si fort que j'appris à fond la théologie, la métaphysique, l'histoire, la poésie, et je n'aurais pas 15 ans que l'on me citait déjà dans tous les collèges de la province comme un des argumentateurs les plus subtils que l'on eût jamais entendu vociférer du haut d'une chaire. Cela ne m'empêcha nullement de prendre un certain goût pour le vin, ce qui me conduisit à l'eau de vie et cette liqueur, d'ailleurs maudite, opérant en moi une réforme intellectuelle d'une valeur prodigieuse, je compris un beau jour le néant de toute chose. Le prophète ne me parut plus aussi sublime que vous pouvez le penser. Les leçons que j'avais faites au collège à des foules d'étudiants se révélèrent à moi comme aussi absurdes que celles dont on m'avait abreuvé moi-même, et devant cette ruine générale de toutes mes opinions, je résolus de me mettre à voyager, afin de renouveler mon entendement, de me pourvoir, s'il était possible, de connaissances plus solides que les anciennes, et aussi de me distraire par la contemplation de spectacles intéressants et curieux. Eh bien, depuis 6 ans, je mène ce genre de vie, et jamais je n'ai eu sujet de m'en repentir. Vous avez peut-être remarqué quelquefois un grand garçon de bonne mine avec lequel je suis généralement associé dans nos marches. Bien, c'est un boulanger de Kaboul qui a, de même que moi, la passion des voyages. Pour la 8e fois, il suit cette route-ci et il retourne dans l'Afghanistan avec la ferme résolution de partir immédiatement pour le nord de l'Inde et de là visiter Cachemire, Samarcande et Kassingar. Quant à moi, j'ai déjà 2 ou 3 fois dans ces contrées et quand j'y retournerai, je pousserai jusqu'à la mer de Chine. En ce moment, je viens de l'Égypte et compte me rendre dans le Béloutchistan. Eh bien, en somme, dites-nous, Seyd, répondit Valeria, dites-nous quels fruits vous avez retirés de tant de fatigue. De très beaux, répondit le voyageur. D'abord, j'ai évité les fatigues bien plus grandes de la vie sédentaire, un métier, la société permanente des imbéciles, l'inimitié des grands, les soucis de la propriété, une maison à conduire, des domestiques à m'origéner, une femme à supporter, des enfants à élever. Voilà ce dont je suis quitte, n'est-ce rien ? Oui, mais du même coup, vous avez perdu les avantages correspondants. Et dont je ne me soucie point, s'écria Seyd Abdurrahman avec un geste de mépris. En revanche, il n'est pas de contrée habitée par des musulmans qui me soient inconnus. J'ai vu les cités les plus illustres et les lieux dont parle l'histoire. J'ai conversé avec les savants de tous les pays. J'ai réuni l'ensemble de toutes les opinions reçues en un lieu, contestées dans un autre, et, somme totale, je ne peux plus douter que la plus grande partie des hommes valent un peu moins que des grains de sable, et que les vérités sont des faussetés, que les gouvernements sont des arsenaux de scélératesse, et que les quelques sages répandus dans l'univers existent seuls d'une manière véritable, et que Dieu très haut et très grand qui a créé cet amas de boue et de turpitude où brille si peu de paillettes d'or, a dû avoir pour agir ainsi des motifs que nous ne connaissons pas, et dont l'apparente absurdité doit recéler certainement des causes d'une profondeur adorable. « Amen !» murmura Redjed Ali, qui n'avait pas compris le premier mot à cette tirade, sinon que tout respect était rendu au Créateur des mondes. Quant au poète, il cherchait une rime au mot « perdre », et le Shemsiyeye souriait avec une certaine ironie qui fut remarquée par Seyyed Abu Rahman, lequel se tourna vivement de son côté et le prit à partie en ces termes. Oh, tu te moques, s'écria-t-il d'un air de triomphe, oui, tu te moques des paroles que je viens de prononcer, parce que tu crois, toi, misérable, dont le nom est un objet d'horreur et ta personne un objet de dégoût pour les populations au milieu desquelles tu vis, tu crois posséder seule la vérité, et cette pauvre vérité se trouverait ainsi dans le monde comme une perle écrasée, ternie, jaunie, dépouillé de toute monture et gisant presque inconnu dans la fange. Eh bien, tel que tu es, Shemsiyeye, je te proposerai aux autres pour exemple, et ils verront que tu es leur modèle. Tes pères ont été puissants. Leurs erreurs se sont étendues sur tant de pays qui désormais professent d'autres dogmes que sous le ciel il n'était pas alors de place pour des religions différentes. Tes folies étaient considérées comme aussi sages que les démonstrations les plus sévères du bon sens, et tes ancêtres les expliquaient avec conviction dans des temples de marbre et de porphyre. Et tout est changé. L'esprit des hommes s'est tourné vers d'autres opinions. Mais console-toi, ces opinions seront un jour traitées comme la tienne, et les multitudes considéreront un musulman, un juif, un chrétien, du même œil qu'elle te regarde aujourd'hui. » Le Shemsiyeye salua sans répondre et Valerio demanda au Seyyid : « Vous qui avez parcouru tant de régions, n'êtes-vous jamais entré sur un territoire européen ?»« Non, jamais !» répliqua le Seyyid d'un air embarrassé. « Et d'où vient cela ?» poursuivit Valerio. Ben, qui pouvais-je chercher? Qui pouvais-je trouver? Vous ne prendrez pas mes paroles à mauvaise part, et vous ne les croirez pas dictées par quelque prévention religieuse indigne d'un philosophe. Oh, d'aucune façon, répondit Valerio. Je connais la largeur et la liberté de vos idées, Seyyid, et ne saurais jamais vous soupçonner de pareille faiblesse. Parlez donc librement et instruisez-moi par votre expérience. « Il n'y a pas d'intérêt pour un sage à voyager dans les pays européens, » répondit le Seyyid d'un air convaincu. « D'abord, on n'y est pas en sûreté. On rencontre à chaque pas des soldats qui marchent d'un air rébarbatif. Les hommes de police remplissent les rues et demandent à chaque instant où l'on va, ce qu'on fait et qui l'on est. Si on manque à leur répondre, on est conduit dans une prison d'où l'on a beaucoup de peine à se tirer. » Il faut avoir les poches pleines de bouilloudi, de firmans, de teskerek et d'autres papiers et documents sans fin, faute de quoi l'on risque même sa vie. Je vous atteste que les choses sont ainsi. Je l'ai entendu rapporter par des gens dignes de foi qui avaient suivi des ambassadeurs musulmans dans ces pays du diable. Redjed Ali écoutait ces révélations, la terreur peinte sur le visage. Valerio se mit à rire. « Mais continuez, je vous en prie, Seyyid, il y a du vrai dans ce que vous dites, et je vous demande la suite avec insistance. » « Eh bien donc, puisque je ne vous fâche pas, j'ajouterai que si l'on a eu le bonheur d'échapper à ces périls et de ne pas être mis en prison pour avoir fait une chose ou l'autre qu'il ne fallait pas faire, on est toujours en grand danger de mourir de faim. » Si on est pauvre, il ne faut pas le dire. Personne ne songe à vous demander si vous avez dîné, et ce qui, dans les pays musulmans, ne coûte pas un poule, exige des sommes folles dans vos pays arabes. Alors que peut-on devenir, ici et partout ailleurs, que je me couche sur le chemin pour dormir, on ne me dira rien. Chez vous, la prison rentre en question. Il en est de même pour tout. Dureté de cœur chez les hommes, cruauté et sévérité chez les gouvernants, et de la liberté nulle part. Il n'y a que contrainte. Par-dessus le marché, un climat aussi inhospitalier que le reste. Je ne me suis jamais étonné, Effendom, de voir ce que vous avez dû observer, comme moi, vu que ceux de vos Européens qui tiennent demeurés au milieu de nous ne peuvent plus s'en détacher, prennent vite nos habitudes et nos mœurs, tandis qu'on n'a jamais cité un des nôtres qui eut la moindre envie de rester dans vos territoires et de s'y établir. Tout cela est encore assez exact, repartit Valério. Et pourtant, je vous ferai remarquer que le nombre des Asiatiques faisant le voyage d'Europe devient chaque année plus considérable. D'accord, s'écria le séide. Ce sont des militaires que l'on envoie apprendre l'exercice et les façons du Nizam. Ce sont des ouvriers qui devront poser des poteaux du télégraphe. Ce sont des médecins qui apprendront à disséquer des cadavres humains. Tous métiers d'esclaves, métiers stupides ou avilissants, ou immondes. Mais il n'est jamais passé par la tête de personne que les Européens, qui savent les choses grossières et communes, possèdent la moindre idée des connaissances supérieures. Ils ne savent ni théologie, ni philosophie. On ne parle point de leurs poètes parce qu'ils ignorent tous les artifices du beau langage, ne connaissant ni le style allitéré, ni les façons de parler fleuries et savantes. D'ailleurs, j'ai ouï dire que leurs langages ne sont au fond que des patois rudes et incorrects. De tout ceci, il résulte que l'Europe ne saurait exercer aucun attrait sur les natures délicates, et c'est pourquoi je vous répète que jamais un galant homme n'y met les pieds quand il n'y est pas contraint par les ordres de son gouvernement. Seyd Abdourahman, ayant terminé cette apostrophe du ton pénétré et d'une voix solide, Valério ne vit aucune raison d'argumenter contre lui, et on parla d'autres choses sur lesquelles on pouvait être mieux d'accord. Cependant, la caravane avançait. Le paysage changeait. On parcourait les contrées des montagnes de la Haute Arménie. On avait atteint les rives bruyantes, bordées de roches, qui enserrent ce torrent fougueux dont le parcours devient plus loin l'Euphrate. On gagnait du pays, mais lentement. D'abord, on ne cheminait chaque jour que pendant 6 à 7 heures, et le déplacement d'un si grand corps était lent. Ce corps se mouvait avec une sorte de précaution solennelle et de sang-froid que rien n'émeut. Ensuite, il s'arrêtait souvent, à moitié route de la station indiquée pour la fin du trajet du jour, et cela pour bien des considérations. Il faut savoir que Kerbelé Hussein avait toujours le soin de recevoir les rapports des messagers envoyés par lui quelques jours à l'avance dans les différents villages afin de négocier avec les paysans la quantité d'orge et de paille hachée dont il avait besoin pour ses bêtes. Le nombre de moutons, de poules, de charges de riz et de légumes qu'il lui fallait pour la population entraînée avec lui. Souvent, les paysans émettaient des prétentions inacceptables quant au prix qu'ils voulaient percevoir. On discutait avec eux. Les mandataires du muletier leur opposaient la concurrence d'autres villages. Souvent, ces derniers s'entendaient avec leurs voisins pour maintenir et imposer des conditions très élevées. De la part des diplomates de la caravane, c'était donc des propositions, des refus, des contre-propositions, des intrigues, des corruptions pratiquées sur tel ou tel de leurs adversaires, des sollicitations appuyées de présent auprès des autorités locales afin d'obtenir que celles-ci donnassent des ordres propres à modérer la rapacité des gens du village. Sans cesse, les négociateurs revenaient auprès de Kerbelet ou Sen pour dire ce qu'ils avaient obtenu, recevoir de nouvelles instructions, parler des offres nouvelles. Le muletier était occupé comme le ministre dirigeant d'un grand état. Lorsque tout semblait réussir à souhait, que l'orge, la paille hachée, les vivres étaient accordés à bon compte et en abondance, la caravane marchait plus vite et d'une façon régulière et assurée. Dans le cas contraire, venaient les lenteurs. Et quand on n'avait pas réussi à s'entendre et que les habitants des villages placés sur la ligne du trajet s'obstinaient dans des exigences déraisonnables, alors Kerbelet Houssen usait d'un grand moyen. Il annonçait qu'il allait quitter la route directe, et si cette menace ne produisait pas son effet, il la mettait à exécution. C'était un coup d'État. Toute la caravane alors, sans que le plus grand nombre des voyageurs en sût rien, prenait un travers champ et commençait un long détour, allant chercher des contrées moins avares, et bien souvent, il arrivait alors que les paysans, effrayés de perdre les bénéfices certains, faisaient leur soumission et envoyaient prier Kerbelet Houssen de revenir. Dans ce cas-là, celui-ci refusait avec hauteur jusqu'à ce que des indemnités suffisantes lui eussent été accordées pour les retards et les peines supplémentaires. Souvent aussi, les fournisseurs, assurés de placer ailleurs leurs marchandises, le laissaient aller. Il cheminait donc, se faisant précéder toujours de ses émissaires, et tirait de la fortune le meilleur parti possible. Il n'avait pas une minute de repos. Sa tête était toujours en travail. Il contemplait son peuple à la façon dont Moïse regardait le sien dans la traversée du désert, et l'habitude qu'il avait de cette responsabilité, sa connaissance profonde du caractère des gens avec lesquels il traitait et des agents qu'il employait, lui donnait une assurance et une fermeté dignes de respect. Mais ce qui occasionnait les plus longs retards, c'était la rencontre d'un pâturage abondant. En ces occasions annoncées avec enthousiasme par les éclaireurs quelques jours à l'avance, on séjournait quelquefois 2 semaines, 3 semaines sur le même point. Le camp était établi d'une manière particulièrement sérieuse et avec toutes les commodités que chacun pouvait se procurer. Il semblait qu'une éternité devait se passer là. Chacun semblait dire, comme les apôtres dans l'Évangile, « Il est bon que nous soyons ici, faisons-y donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Les chameaux, les mulets, les chevaux, les ânes se promenaient dans l'herbage plantureux où ils enfonçaient jusqu'au ventre. Les muletiers étaient charmés de voir leurs bêtes se remettre à vue d'œil de leur fatigue au moyen de ce savoureux repas. La vue de la verdure et des fleurs charmait tous les regards, et la ruche bourdonnait de plus belle, chacun allant, venant, causant, remuant, continuant les marches, les intrigues, les achats et les ventes, que, comme on l'a vu, la marche même n'interrompait pas. Car une caravane, c'est une ville mouvante, et les intérêts et les plaisirs d'une ville ne s'y reposent pas plus que dans les cités sédentaires. Pendant ces haltes ainsi prolongées, Lucie et Valério employaient une partie de leur temps à faire des excursions dans la contrée qui les entourait. C'étaient déjà ces riches montagnes du Kurdistan, dont la beauté est plus âpre peut-être que le Taurus, où les gorges sont plus étroites, les escarpements plus abrupts, mais où la nature féconde n'est pas moins généreuse de ses dons. Les deux amants étaient jeunes, ils étaient hardis, ils ne suivaient pas toujours à la lettre les sages avertissements de Kerbelet Houssen, qui cherchait à les rendre prudents et à les détourner d'excursions trop longues. « Vous ne savez pas, leur disait-il, qui vous pouvez rencontrer. Les Kurdes, quand que le ciel les confonde, ne sont pas tous des pillards et des assassins, mais les exceptions sont rares, et il ne faut tenter personne. Je vous engage donc à ne pas vous éloigner du camp, de telle sorte que vous puissiez devenir la proie de quelques rôdeurs. » Une petite aventure donna une sorte de consécration à ces sages paroles. Valerio et Lucie, accompagnés du poète, du Chemchiye et de Rajdeb Ali, s'étaient mis en route un matin pour aller à quelque distance visiter un village dont on leur avait fort vanté la situation pittoresque. Tous étaient fort gais. Le poète, un peu moins malade qu'à son ordinaire, prenait des airs avantageux sur son cheval de louage et se comparait à un chevalier des anciens temps. Il en avait plus que jamais la plume, l'épée, les éperons, mais moins que jamais toute autre chose. Recep Ali chantait à tue-tête une chanson persane et le Chemchiye, toujours replié en lui-même, marchait sans rien dire auprès du cheval de Lucie. Le passage était resserré entre les montagnes et charmant, plein d'habitations rustiques en terre battue, à toit plat, encombré d'arbres fruitiers chargés de pommes, de poires, de prunes et de raisins. Tout à coup, on se trouva dans un défilé étroit, circulant avec un ruisseau et dominé par des crêtes hautes, et on entendit retentir une violente fusillade. Valerio mit brusquement la main sur la bride du cheval de sa femme et l'arrêta court. Le Chemchiye, par un mouvement qui lui fit honneur, tira son sabre et se jeta devant Lucie pour la couvrir de son corps. Le poète mit l'épée à la main en invoquant Saint Georges, et Recep se coucha par terre en criant qu'il était mort. L'alerte fut vive, il y avait de quoi. Mais aussitôt, on entendit de toutes parts, sur les deux flancs des montagnes. « N'ayez pas peur, on n'en veut pas à vous, allez-vous-en, on tire pas sur vous. » Et la fusillade fut suspendue un instant. Valerio, profitant de cette trêve, fit rebrousser chemin au cheval de Lucie, et la petite troupe partit au galop et ne cessa pas de courir jusqu'à ce qu'elle fût rentrée au camp où Kerbel et Houssen apprit en souriant les détails de l'aventure. Mais si vous m'aviez prévenu ce matin, dit-il à Valerio, que vous aviez l'intention d'aller de ce côté, je vous en aurais dissuadé. Je savais que deux tribus du voisinage avaient l'intention de s'y battre. C'est ce dont elles s'occupent, et comme cela ne cause du mal à personne, il n'y a qu'à les laisser se fusiller en repos. Dieu est grand et fait bien ce qu'il fait. Ainsi conclut le plus sage des muletiers, et à dater de ce jour, Valerio ne manqua plus de prendre ses conseils sur l'étendue comme sur la direction des promenades qu'il comptait faire avec Lucie. Un des grands plaisirs de la marche, c'était de se rencontrer au lieu de campement avec une autre caravane arrivant d'une direction opposée. Naturellement, dans de pareils cas, les chefs respectifs des deux grands corps ambulants se sont assurés à l'avance qu'ils peuvent s'établir l'un près de l'autre sans compromettre leurs moyens de subsister. Alors, ce sont deux cités qui s'arrêtent en face l'une de l'autre, deux cités véritables. L'une vient de l'Occident, l'autre est partie de l'Orient. Qu'on s'imagine Samarcande et Smyrne se rencontrant au pied des montagnes qui séparent la Médie de la région du Tigre et de l'Euphrate. De ce côté, sous ses tentes, sous ses baraques, sont des Persans de l'Est, des gens du Khorasan, des Afghans, des Turcomans, des Uzbeks, des hommes venus des frontières lointaines de la Chine et même de ces contrées mal connues qui font pénétrer au milieu des provinces du céleste empire les dogmes et les idées de l'islamisme arabe. De ce côté-ci, au contraire, voilà des Persans de l'Ouest, des Osmanlis, des Arméniens, des Yézidis, des Syriens et des hommes de l'Europe lointaine, comme nous les avons déjà vus et comme nous les suivons depuis le commencement de cette histoire. Dans les deux villes existent des éléments communs, des Juifs surtout. Ceux-là viennent aussi bien de Damas et d'Alep que de Bokhara et de Manjishark. Tel d'entre eux voyage pour vendre et acheter, mais tel autre est un mandataire de la communauté de Jérusalem. Il va recueillir et rapporter aux habitants de la cité sainte les aumônes des fidèles. Il pénètre partout pour recueillir sa boisson. Si cette année il va à Téhéran, l'année dernière il était à Calcutta. Qui va, demeure, recevra sa visite plus tard, et partout il est reçu avec respect par ses coreligionnaires. C'est un homme grave, ferme, dur, il connaît le monde, et sait mieux que personne l'état actuel de l'univers. Il n'est pas humble comme ses coreligionnaires et ne supporte ni affront ni avanie. Au besoin, il se réclame de la nationalité française, exhibe un passeport de cette nation, qui le désigne comme né à Alger, et réclame avec hauteur la protection des consuls en les menaçant de s'adresser aux journaux s'ils ne lui font rendre justice. C'est un personnage terrible et que tout le monde redoute. Il a bien vite fait de réunir dans sa tente les Juifs des deux caravanes, et c'est là qu'on s'apprend mutuellement ce qu'il y a à vendre et à échanger de part et d'autre. Les noms des grands marchands, la nature et le poids des denrées qu'ils portent avec eux, enfin les nouvelles, grandes et petites. De pareilles rencontres déterminent généralement un séjour assez long de la part des caravanes, lorsque toutefois les circonstances de saison, de sécurité, de lieu et d'approvisionnement le permettent. Alors il se produit aussi du mouvement dans les deux populations. Ceux-ci rebouchent chemin vers l'ouest avec les orientaux. Ceux-là, qui étaient venus parmi eux, s'attachent aux gens venus de l'ouest. On a beaucoup agi, intrigué, remué. On se dit adieu et on se sépare. Mais il existe aussi des caravanes d'un tout autre genre et auxquelles on n'est jamais pressé de se rallier. Au contraire, on double volontiers une marche pour ne pas rester campé auprès d'elles. Ce sont les caravanes sacrées dont les mulets, les chameaux, les chevaux portent, au lieu de marchandises, des bières avec leurs morts que l'on va enterrer dans quelques villes saintes. À Meshed, à Goum, à Kerbela. Ces caravanes ne sont d'ailleurs pas plus tristes que les autres. On y chante, on y rit, on s'y amuse tout autant. À la vérité, les conducteurs en sont de vertueux djaouches, avec leurs vestes turbans, des moulas vénérables pourvus de coiffures non moins sérieuses. Les versets du Coran sont fréquemment récités, mais on ne peut pas prier toujours. Et dans les intervalles qui sont nombreux et longs, le plus austère directeur ne se refuse pas à entendre ni à faire un bon compte. Quand on arrive à la station, le turban est mis de côté, et en caleçon et bonnet de nuit, on se met à son aise. On loue Dieu de ce qu'il a créé l'eau de vie. Cependant, les fils respectueux, les frères dévoués, ont pris sur le bas du mulet le corps de leurs regrettés parents. On a mis les caisses funèbres les unes sur les autres, en tas, ou bien encore on les a laissées où elles sont tombées. On les ramassera le lendemain, et si l'on se trompe de coffre en définitive, chaque défunt aura finalement la même couche funèbre sous la protection dans le voisinage de l'imam. Tout irait pour le mieux si l'odeur qui s'exhale de ces cadavres mal empaquetés n'était pas en elle-même désagréable et tenue assez généralement pour malsaine. C'est là seulement ce qui fait qu'on évite, quand on peut, les caravanes des morts. Au contraire, on ne déteste pas la rencontre d'un grand seigneur s'en allant avec 200 ou 300 cavaliers chasser ou rendre au roi ses hommages. C'est une occasion de plaisir. C'est aussi quelquefois un surcroît de sécurité. 200 ou 300 braves gentilshommes des tribus, armés jusqu'aux dents, ne sont pas d'un petit secours dans les contrées hantées et troublées par les Kurdes, Djellalis ou autres, dans les régions du Nord ou bien par les Balkhalaris et les Lours dans celles du Sud. Alors, pendant qu'on voyage côte à côte, on échange de grandes politesses et de petits présents qui ne font jamais de peine à ceux qui les reçoivent. De loin en loin, la caravane allant toujours arrive enfin dans le voisinage d'une ville réelle et stable. Ces villes sont rares. Quand on est établi sous les murailles d'une de ces cités, alors la population errante redouble d'occupation et de mouvement. Celui-ci réussit à placer ses accusations faites à Trébizonde. Il recueille un honnête profit et se forme une nouvelle pacotille. Celui-là quitte le monde d'amis qu'il s'est fait depuis le départ et reste dans la cité, ou bien va s'unir à une autre caravane. Il est remplacé par de nouveaux venus. Des connaissances vous quittent et on les serre dans ses bras, on leur fait de tendres adieux. Quelques-uns pleurent, d'autres déplorent avec des lamentations sans fin les inconstances de la fortune. Mais voilà d'autres personnages qui se présentent. On ne les connaît pas. On parle d'eux, on cherche à les aborder. On veut se lier avec ces inconnus et ils ne demandent pas mieux de leur côté. Les jours se passent, les affaires s'avancent. On se dit « Oh, par demain ! Je sais de bonne part que Kerbelay Houssen a cette intention. » « Ah oui, il l'a dit à Mourad Bey. Oh, je le tiens précisément de Nourad-Din Effendi, qu'il a appris d'un ami très confident de Kerbelay Houssen. Vous en êtes sûr ? Oh, j'en suis sûr, sur ma tête, sur la vôtre, sur mes yeux, par tous les imams et tous les 90 000 prophètes. » Le lendemain, on ne part pas, non, mais on part 8 jours après. On marche, comme on l'a fait jusque-là. On rencontre de nouvelles aventures, les unes bonnes, les autres mauvaises. Jamais les mêmes, toujours variées, comme chacune des feuilles qui par millions forment la toiture d'un bois touffu, et on voyagerait ainsi avec un maître muletier et tant de compagnons divers pendant des centaines de siècles que jamais on ne ferait les mêmes rencontres et ne retrouverait les mêmes conjonctions de choses. On peut donc s'expliquer que lorsque les hommes ont goûté une fois de ce genre d'existence, ils n'en peuvent plus subir une autre. Autant de l'amant de l'imprévu, ils le possèdent, ou plutôt s'abandonnent à lui du soir au matin et du matin jusqu'au soir. Avides d'émotion, ils en sont abreuvés. Curieux, leurs yeux sont constamment en régal. Inconstants, ils n'ont pas même le temps de se lasser de ce qui les quitte. Passionnés enfin pour la sensation présente, ils sont débarrassés à la fois des ombres du passé qui ne sauraient les suivre dans leur évolution incessante et encore bien plus des préoccupations de l'avenir écrasées sous la présence impérieuse de ce qui est là. Et voilà la physionomie de la vie de voyage, et voilà son langage. Et voilà ce qu'elle dit à l'imagination de celui qui l'adopte et la sait pratiquer. Malheureusement, tout fruit a le ver qui le ronge, et les plus brillantes fleurs de la création ne sont pas sans un venin secret D'autant plus dangereux que les couleurs de la plante sont plus éclatantes et plus belles. On a vu comme Lucie avait ressenti d'abord une impression saisissante et joyeuse de tous ces tableaux si variés qui se succédaient sous ses regards ou s'y pressaient à la fois. Si les façons de ces pays nouveaux avaient excité son enthousiasme, elle était entrée avec une curiosité extrême dans les récits innombrables qui lui avaient été faits. Elle s'était enivrée du parfum de tant de révélations singulières et les êtres humains si différents d'elle-même qui s'agitaient chaque jour sous ses yeux faisaient naître à la fois les uns sa sympathie, les autres son dégoût. Mais non, rien pour elle n'était dépouillé d'intérêt. Les choses en étaient là quand, une nuit, une idée, une impression suffit pour tout changer en elle. Elle s'était réveillée sous l'impression d'un malaise indéfinissable et pour la première fois depuis son mariage, elle se sentit triste, mais triste jusqu'à la mort. Elle ne se rendait compte de rien, elle ne savait rien, elle ne sentait rien de particulier. Pourtant, elle se mit à pleurer, sans le vouloir, presque sans le savoir, et peu à peu, les pleurs la suffoquant, elle se mit à sangloter tout haut, et Valerio, réveillé, la trouva, cachant sa tête dans ses bras et ne cherchant plus même à maîtriser une sorte de désespoir. La surprise du jeune mari fut extrême. Son épouvante ne le fut pas moins. Il prit sa femme dans ses bras. « Mais qu'as-tu, Lucie ? » lui dit-il. Elle ne pouvait répondre, elle pleurait trop. Elle se serrait sur le cœur qui lui appartenait, mais cette consolation qu'elle y cherchait, cette sécurité qu'elle y trouvait, ne pouvait pourtant réussir à la calmer. « Je ne sais ce que j'ai, » disait-elle d'une voix entrecoupée. « Je suis bien malheureuse. Je cherche moi-même ce qui m'accable, car je le sens, je suis accablée. Il me semble que je suis dans une prison, que toutes les portes sont fermées sur moi. Non, 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 ce n'est pas cela. » Il me semble que je suis perdu dans un désert et que les sables sans fin se succèdent et que je n'en échapperai jamais. Non, 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 ce n'est pas cela encore. Il me semble que je suis enfermé dans une tombe étroite et que la pierre en est scellée sur moi. Non, 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 mais non, toutes ces images sont trop affreuses et pourtant, oui, Valerio, elles sont toutes vraies. Je commence à comprendre l'idée qui m'a saisi.
« Mais explique-la-moi, explique la vérité !» s'écria le jeune homme en lui serrant les mains, en lui pressant la tête contre sa poitrine. « Dis-moi tout pour que je te console !»«
Eh bien, oui, la prison, le désert, le tombeau, tout cela est vrai, je me sens prise. Oh, Valerio, il faut que je m'en aille d'ici. J'ai tout regardé, j'ai tout vu. » J'ai été amusé, charmé, ravi, oh, je ne le nie pas. Mais soudain, je viens de m'apercevoir que nous sommes seuls, absolument seuls, au milieu d'un monde qui nous est étranger.
Comment, tu as peur? Mais de quoi as-tu peur? Tu t'imagines un danger?
Je m'imagine ce que je vois. Cette solitude morale absolue, sans contraste, qui s'épaissit autour de nous. Peur, oh non, je n'ai pas peur, ou du moins je n'ai pas précisément peur, mais au premier abord, je ne voyais, je ne comprenais que la superficie des choses, et l'apercevant comme elle est, bariolée, mouvante, je m'en amusais, et je ne supposais pas le dessous. Mais maintenant, prends-tu garde toi-même que nous sommes entourés par l'inconnu, par l'étrangeté incommensurable, sans borne, que tout ce que nous approchons nous regarde comme nous le regardons nous-mêmes, et cela sans nous comprendre, comme aussi nous ne comprenons pas.
Nous sommes portés sur une houle dont nous ne connaissons pas la force. Un souffle du vent peut faire une tempête. Nous pouvons tomber dans un tourbillon. Nous n'avons pas de boussole pour nous guider. Et de même que nous ignorons de la manière la plus complète le paysage que se déroule derrière ces montagnes élevées devant nous, de même nous ne savons pas quel ressort font mouvoir les esprits et les volontés, quel feu subit et enflamme les imaginations de gens que nous jugeons en ce moment les plus inoffensifs et les meilleurs. Tiens, par exemple, qui me dit que le Shemsiyeh ne va pas entrer le sabre en main et nous égorger pour faire un sacrifice à ses dieux? Oui, moi, non, non, ne ris pas. Et le sacrifice, il le jugerait peut-être d'autant meilleur que cet homme nous aime peut-être et offrirait ses bienfaiteurs et sa reconnaissance. Est-ce que je sais ce qui peut naître et s'agiter dans ces têtes qui sont si différentes des nôtres et qui trahissent des expressions de visage si nouvelles pour nos yeux? Et ce Kerbelé Houssen lui-même, dont nous célébrons l'honnêteté et la droiture depuis que nous le connaissons, savons-nous bien ce que lui-même appelle droiture et honnêteté? Qu'y a-t-il de commun entre ces gens-là et nous? Eh bien oui, j'ai peur. Je voudrais me retrouver dans un autre pays, dans le nôtre, dans celui que nous avons contemplé toute notre vie, qui n'a pas de mystère et d'inconnu pour nous, pour lequel nous sommes faits et qui est fait pour les natures que nous avons reçues du ciel. Je voudrais voir les gens que nous pouvons reconnaître, sur le visage desquels nous sommes accoutumés à lire, et qui comprennent le bien et le mal de la même façon que nous. Enfin, Valério, oui, c'est vrai, Valério, je me sens perdu ici. Nous sommes tout seuls, et j'en conviens, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je ne veux pas rester ici. Allons-nous-en. À ces mots, elle serra plus fort encore son mari dans ses bras et redoubla ses sanglots. Elle était en proie à une réaction qui se produit assez ordinairement en Asie, chez les gens peu ou mal trompés. On voit de ceux-ci, pris subitement et sans autre cause qu'un travail intérieur de leur conscience, par des paniques qui, en s'accumulant les unes sur les autres, s'exagèrent et s'exaspèrent, arrivent à la véritable folie. Tels, oh, et des exemples en sont connus, prend tout bonnement le parti de s'enfuir et ruaille l'Europe à travers des dangers très réels pour échapper aux plus imaginaires des périls. Tel autre se croit constamment à la minute d'un assassinat. S'il est assis dans sa chambre, dont la porte est close, et qu'il entend des pas dans le corridor, c'est un musulman fanatique qui est là, se colle contre la muraille, se glisse, entre, son poignard est déjà dans sa main, il va frapper. La victime sent ses membres se couvrir d'une sueur froide. Il se calme pourtant. Ce n'était rien que son propre domestique qui lui apporte le thé et dépose la tasse sur la table. Mais le malade lui a trouvé l'air singulier. Cet homme couvre un mauvais coup. Il n'a pas osé parce qu'il a vu qu'on était sur ses gardes. Maintenant, il reviendra. Il va faire feu de ses pistolets par la fenêtre. Quelquefois, l'halluciné reprend tout son sang-froid, sa coutume au milieu dans lequel il est placé, et sa guérison est assurée. Mais il arrive aussi que le mal maintient et assure son empire. Alors on tombe dans la variété la plus redoutable de la souffrance, appelée nostalgie. En voyant Lucie souffrir d'un tel état, Valério eut peur à son tour. Le jour arriva et les angoisses de la nuit un peu calmées firent place à une langueur, à un abattement qui n'était pas de bon augure. La jeune femme s'efforça ce jour-là et les jours suivants de prendre sur elle pour ne pas affliger son mari. Mais il ne lui fut pas possible de retrouver son enthousiasme perdu. Elle ne prenait plus à rien un intérêt véritable. Elle était gênée, elle était froide. Un dégoût profond et irrémédiable l'envahissait de plus en plus et perçait dans toutes ses paroles. Kerblé-Houssen s'aperçut à sa pâleur que les choses n'allaient plus comme autrefois. Il devina en gros ce qui se passait pour en avoir vu d'autres exemples. « Je vous ai prévenu, » dit-il à Valerio un matin pendant une marche. « Je vous ai prévenu. Les femmes de votre pays ne sont pas faites pour la vie que nous menons. La vôtre est particulièrement susceptible. Elle ne peut supporter indéfiniment la vue de nos longues barbes et de nos robes longues. Elle qui est habituée aux visages ras et aux habits courts. Si vous persistez à prolonger votre voyage, vous la perdrez, je vous le dis franchement. C'est vrai, répondit Valerio en baissant la tête. Ma femme est malade. Mais croyez-vous que son état ne puisse s'améliorer et que les conséquences en soient si dangereuses? Croyez-moi, je vous le répète, ne poussez pas l'épreuve plus loin. Tout à l'heure, à la station, nous ferons rencontre d'une caravane qui va à Bagdad. Quittez-moi, rejoignez-la et retournez en Europe par Alep et Beyrouth. » Valerio se soumit et en fut immédiatement récompensé. Aussitôt que Lucie eut connaissance de ce qui allait arriver, elle éprouva un soulagement immédiat. Elle sourit franchement pour la première fois depuis bien des jours. La séparation de tous les amis qu'elle s'était fait lui fut cependant pénible. Quelques heures auparavant, elle les détestait, les redoutait. Mais quand le Shemsiyeh prit congé d'elle, la jeune femme lui fit quelques présents qui furent reçus avec une émotion de reconnaissance. Le pauvre diable jura à l'européenne un souvenir éternel. Et il a tenu parole. Le poète composa un sonnet dont la copie fut précieusement conservée. La femme de Redjé Alib serra longtemps sa protectrice sur son cœur et celle-ci lui rendit ses embrassements avec une émotion vraie. À ce moment, elle aurait presque souhaité de ne pas partir, mais la résolution était prise. Kerblé-Houssen lui donna solennellement sa bénédiction en l'appelant sa fille et elle passa avec Valerio dans le campement de l'autre caravane. Un an après, Valerio Conti et sa charmante femme prenaient le thé dans un salon de Berlin. Il y avait là des diplomates, des militaires, des professeurs et des femmes fort spirituelles et aimables. On faisait raconter à la jeune voyageuse ses aventures en Asie, et il y mettait une verve, un feu, une exaltation qui la rendait particulièrement charmante. « Oui, je vous l'assure, disait-elle, je regrette ce temps comme le meilleur de ma vie. Je suis assurément bien reconnaissante au comte de P d'avoir fait nommer M. Conti secrétaire à la légation ottomane dans cette cour. Mais s'il n'y avait pas réussi, eh bien, je serais encore dans cet Orient que j'ai trop rapidement traversé et qui éveille au milieu de mes souvenirs les sensations les plus heureuses, les plus brillantes, les plus inoubliables que j'ai jamais éprouvées. Hélas, dit Valerio, vous oubliez, ma chère, que ces sensations vous tuaient et que la fin n'en est pas venue trop tôt. « Madame, ajouta le professeur Kaufmann, qui est un peu pédant, l'organisme humain garde aussi bien l'empreinte d'un plaisir qui lui faisait mal que celle d'une maladie grave qui pouvait le briser. »